Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Anna Blum, bonjour.
Bonjour.
Et de Philippe Lamotte.
Bonjour.
Et donc, tous les deux, vous êtes ici pour nous parler en premier lieu du blog que vous avez créé, vous, Anna, qui s'intitule Anna Blum.
Oui, donc le blog de Anna Blum que j'ai créé il y a à peu près 9 ans, quand je suis arrivée dans le Diwa en fait.
C'est un travail d'écriture, ce site.
Oui, au début c'était vraiment un travail d'écriture parce que voilà, c'est ce qui me plaît, le travail avec les mots. Et mais en fait, bon, j'habitais au Pilon, c'est un petit hameau de Val-Maravel qui se situe vraiment dans le haut Diwa. Et bon, c'est là que j'ai rencontré Philippe, qui était mon voisin. Et bon, j'ai fait le portrait de Philippe parce que j'ai fait des portraits de personnes qui sont passionnées par des sujets qui ont du sens, enfin pour moi en tout cas. Et donc, j'avais fait le portrait de Philippe et on s'était toujours dit qu'on finirait par faire quelque chose ensemble parce que la passion de Philippe, c'est l'image. Et donc, image et texte, et voilà, on a évolué vers ça.
Et donc, vous, Philippe Lamotte, vous êtes photographe amateur, mais un grand passionné de l'image quand même.
Oui, tout à fait. Depuis que je suis à la retraite, je me consacre à l'image. Et j'ai découvert le Diwa. Et j'avoue qu'il y a une telle matière dans le Diwa. Je photographie différents domaines. Et en particulier aussi bien je dirais des rencontres, des belles rencontres avec des personnes, mais aussi bien dans leur contexte, que ce soit la musique, le théâtre ou bien je dirais la production agricole, bio, très souvent d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est à travers une rencontre avec Anna, lorsqu'on était tous les deux, on habitait le Pilon. On s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir faire quelque chose et que, comme on a tous les deux une fibre sur tout ce qui est social et solidaire, toutes les démarches alternatives, la rencontre a pu se faire tranquillement et voilà, une partie du blog aujourd'hui, on met aussi de l'image, aussi bien soit en photo, voire maintenant avec nos outils numériques, on peut même filmer et donc je pense qu'on en parlera, mais voilà, on a des projets importants sur ce domaine.
Ce site, c'est dans la continuité de ce que vous avez exercé durant votre vie, au niveau de l'écriture ou alors au niveau de l'image ?
Pour ce qui concerne l'écriture, ça a toujours fait partie de ma vie parce que professionnellement, j'étais obligée de rédiger des communiqués de presse, des conférences de presse, des choses comme ça. Mais voilà, enfin, c'était aussi ma passion, mes loisirs, je vais dire. J'adore la littérature, j'adore lire. Et donc l'écriture est venue petit à petit aussi au travers de stages d'écriture, notamment avec l'écrivain Hubert Haddad. Et voilà, moi, c'est... Les mots m'appellent et si je reste trop longtemps sans écrire quelque chose, ben je sens bien que j'ai besoin d'y retourner, j'ai besoin de retrouver ce bain. Je dirais c'est un bain analogique en quelque sorte. Les mots se trouvent, se cherchent, voilà, c'est un peu c'est ça ma passion et donc. Voilà, ça a débouché sur ce blog et voilà, c'est une partie en tout cas de ce que je fais, de ce que je réalise.
La langue française, c'est une chose auquel vous tenez beaucoup et qui vous enrichit.
Alors moi, je suis née donc en Belgique et je suis en fait flamande d'origine. Mais j'ai vécu dans les deux parties du pays, y compris à Bruxelles, la capitale, où les deux langues s'utilisent. Mais bon, en tout cas, ça m'a ouvert à l'intérêt des autres cultures, je dirais. Et ça, j'adore justement, par exemple, j'adore entendre les étrangers parler français, par exemple. Ça, il y a une connotation, il y a quelque chose de différent, de savoureux dans l'interculturalité, je vais dire. À ce niveau-là, en tout cas, j'apprécie beaucoup et le fait de connaître deux langues bien, ça aide à apprécier les subtilités de chaque langue, en fait, je dirais.
Il existe aussi des subtilités dans la langue française belge. Est-ce qu'il y a un vocabulaire qui est particulier aux Belges par rapport à la langue française ?
Oui, sûrement, sûrement. Déjà, par exemple, en fait, cette année, à la fin de l'année plutôt, j'aime bien dire à mes amis en fait que je vais avoir un âge que eux n'auront jamais. Alors ils me disent, mais enfin, c'est quand même incroyable que tu me dises ça. Bon, tout de suite, ils se voient déjà mourir. Mais en fait, non, c'est parce que moi, je vais avoir 70 ans et 70 n'existe pas en français. Donc voilà, ils n'auront pas le plaisir d'avoir 70 ans. Mais il y a plein de mots comme ça et c'est vrai que je pense qu'on irait, on va à la Guadeloupe, c'est encore autre chose. Voilà, le français, il est déclinable, il est aussi, il va prendre les accents, les couleurs, le climat des endroits où il est parlé. Donc c'est ça aussi la langue en fait, c'est ce qui est précieux dans la langue en fait.
Est-ce qu'il y a ce même souci en Belgique pour la féminisation des professions, par exemple ?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense que, à ce niveau-là, en tout cas, je pense que les Belges sont probablement déjà plus loin que l'Académie française. En fait, bon, c'est vraiment avec des coups de pied au derrière, je dirais que... qu'ils évoluent. Les Canadiens aussi, ils ont accepté la féminisation des professions, par exemple, depuis bien, bien longtemps. Et donc...
Et Philippe Lamotte, vous, votre activité professionnelle a forcément influencé sur cette passion pour la photographie ?
Oui et non. J'ai une formation d'architecte, donc forcément une formation des beaux-arts. Donc il y a quand même le principe de l'image, du cadrage, de l'esthétique de l'image. Mais c'était pas du tout ma profession. J'étais plutôt dans le secteur public et voire même dans le logement social dans les dernières parties de mon activité professionnelle. Et c'est plutôt la touche sociale qui était la plus importante. En revanche, pour payer mes études, à un moment donné, j'étais assistant d'un photographe. Et c'est ce qui m'a donné, enfin, qui a plutôt renforcé ma passion de la photographie, parce que la photographie est une longue histoire, mais comme tous les ados, à un moment donné, avec les copains, on voulait faire de la musique, et malheureusement, j'ai pas une très bonne oreille, donc j'ai changé ma batterie contre un appareil photo, et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à faire de la photo. Et le lien avec le social est venu assez rapidement dans les années 70, avec... ce qui se passait un peu dans le monde, la guerre du Vietnam, ce qui se passait aussi en Irlande. Donc le regard des grands photographes à travers des revues professionnelles m'a donné cette passion de la photographie que j'ai continué à exercer avec, en tant qu'amateur, bien sûr, et perfectionné en tant qu'assistant d'un photographe pendant une période. Et puis maintenant, je me libère du temps, j'ai du temps, donc c'est ça qui est extraordinaire, ce qui fait qu'il me permet aujourd'hui de marier à la fois... la photographie, cette passion et le regard que j'ai sur l'humain en général et mes contemporains autour de moi.
Pour annoncer aussi, vous exposez actuellement au cinéma Le Pestel, hein, une série de photographies. Ce sont des tirages que vous faites vous-même ?
Oui, je gère toute la filière, c'est-à-dire entre la prise de vue, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'acte photographique, mais aussi la mise en page définitive sur une impression, puisque avec l'intérêt du numérique aujourd'hui, on peut effectivement avoir la possibilité de pouvoir tirer avec une très belle imprimante, une bonne imprimante, et j'utilise des papiers qui sont... Les fabricants de papier ont aussi suivi, je dirais, le mode numérique dans la mesure où le baryté qui existait dans l'argentique aujourd'hui existe aussi dans le numérique, ce qui fait qu'on peut garder la qualité de l'argentique avec le numérique. Donc je fais du noir et blanc parce que j'ai fait beaucoup d'argentique dans ma vie et j'ai gardé cette couleur que j'aime bien, c'est-à-dire les nuances, les différentes nuances de gris, et de conserver le numérique, y compris dans mon appareil photo, l'optique, il est à travers du gris, quoi. Il n'est pas du tout coloré. Voilà, donc je tire moi-même et j'encadre moi-même, je suis un peu artisan dans ce domaine.
Vous êtes plus intéressé par le tirage en noir et blanc, la photographie en noir et blanc. La couleur pour vous, est-ce que c'est plutôt secondaire pour la représentation ?
Pour moi, la photographie, elle est en noir et blanc, mais je crois que parce que ma culture photographique, elle est noir et blanc. J'ai beaucoup vu d'expositions de grands photographes du monde qui ont fait du noir et blanc, et comme le fait aussi de faire de l'argentique. Ça aide aussi parce que le Kodak Strizik, c'était un peu notre crayon, quoi, entre guillemets, pour paraphraser avec Anna qui fait plutôt l'écriture. C'est-à-dire que c'est vraiment l'outil. Et en revanche, la couleur pour moi, c'est la peinture. Voilà. Donc je fais bien la différence entre les deux. Mmh. Et ce qui me permet effectivement de mieux faire un travail noir et blanc, une interprétation, en fait, du réel et du vécu à travers le cadrage, mais aussi à travers ces nuances de gris.
Anna Blum, qu'est-ce qui vous a conforté dans l'écriture au point de vouloir la partager ?
C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre, parce qu'en fait, c'est un besoin. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand je reste quelques jours, je dirais maximum une semaine, 10 jours, sans écrire, je commence à me sentir mal. Et je me dis, bon, il est temps que je me mette à table, à table ou devant mon ordinateur ou avec mon carnet, et que j'écrive. C'est comme ça. Parfois, je le regrette parce que c'est une activité solitaire, obligée. Et puis, c'est aussi une activité, peut-être contrairement à d'autres arts, où on est obligé de prendre du recul. Beaucoup de recul dans le sens, et c'est peut-être ça mon besoin, parce que je sais que c'est un de mes besoins, c'est de prendre de la hauteur, de voir les choses de façon globale, et c'est une approche que j'ai et qui est pour moi une nécessité. Je suis par ailleurs, je fais un parallèle parce que, par exemple, la pensée occidentale, elle est très très analytique. Et contrairement à la pensée orientale qui est plutôt synthétique et analogique. Et moi, j'adore l'analogie. ça a à voir avec la poésie, ça a à voir avec le fait de mettre des choses ensemble sans nécessairement l'avoir analysé jusque dans ces derniers petits recoins. Et la pensée orientale, elle est vraiment comme ça. Elle met des choses en rapport. Et quand on a fait nos ateliers d'écriture avec Hubert, c'était vraiment ça que j'appréciais aussi, c'est que on était vraiment plongé dans un bain analogique. Il y a des choses, il y a plein de choses qui sont dites, on prend au vol, et tout à coup, il se crée quelque chose, il y a une atmosphère, une ambiance, et quelque chose naît, quelque chose se crée. Et pour moi, voilà, je me sens bien là-dedans, en fait.
Contrairement à la photographie où l'image reste imprimée ou marquée sur le papier, un texte, lui, il est sans cesse en mutation dans sa lecture.
C'est vrai, oui.
Et que vous êtes peut-être toujours aussi comme Pierre Bonnard qui retouchait jusque dans les expositions ses peintures parce qu'il y avait des petites choses à retoucher.
Oui, oui.
Voilà. Est-ce que vous êtes un peu ça aussi ?
Ben oui, en fait, un texte, ouais, c'est vrai, c'est jamais fini, même quand je l'ai imprimé, en fait, à un moment donné, je me dis, ah non, il faut retravailler, il faut reprendre, je bouge des virgules, j'enlève, je remets, ça bouge tout le temps, c'est vrai. C'est vrai, c'est jamais fini. bon, et il y a quand même un livre, parfois, un livre sort, le livre, voilà, il est parti, on ne peut pas le retoucher. Et c'est gay aussi, c'est chouette aussi.
Parfois, il y a des rééditions corrigées hein, de livres aussi.
Oui,
hein.
Mais
bon, il faut avoir les moyens. Et donc l'image, je reviens à Philippe, vous, quand vous prenez une photographie, vous opérez par cadrage, par contraste, vous avez tous ces facteurs que vous prenez en compte pendant la prise de vue ?
Je cherche surtout le cadrage, parce que le reste, je dirais, c'est intégré et que... Il y aura peut-être un petit travail après au moment de l'impression, mais c'est surtout le cadrage, c'est-à-dire de pouvoir se mouvoir autour du sujet, s'approcher, se chercher le moment de la spontanéité aussi. C'est aussi, comme dirait Cartier-Bresson, c'est l'instant décisif, c'est-à-dire que l'appareil photo est collé à l'œil et puis on attend de voir ce qui se passe à travers l'œil, à travers cet outil, et puis de dire à ce moment-là, oui, ça c'est bon, et puis s'apercevoir que, voilà, deux secondes après, il y a un autre événement et on réappuie, quoi. Parce qu'on cherche, puis après, c'est le travail sur la planche contact. Alors aujourd'hui, la planche contact, c'est un écran d'informatique, mais on est dans la même manière de faire, quoi. C'est-à-dire que l'objectif, pas faire beaucoup de photos, mais c'est de faire essayer de chercher vraiment le bon angle, le bon endroit, le bon moment pour pouvoir, trouver l'émotion qu'on ressent et qu'on peut ressentir déjà quand on est dans le moment, quoi.
Je suppose que vous sculptiez, vous opériez des tirages vous-même, hein, donc de vos photographies sur argentique. Vous sculptiez la lumière lors de l'exposition de l'image sur le papier.
Oui, tout à fait.
Est-ce que ça, c'est une chose qui se perd justement avec la technologie actuelle de la retouche ?
Non, c'est surtout, on a des outils aujourd'hui qui ressemblent beaucoup, en fait. Je pense que ceux qui ont inventé ces outils comme Photoshop et autres, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je pense qu'ils se sont servis des techniques des photographes qui tirent eux-mêmes dans leur labo. Donc on a des systèmes de cache que l'on fait avec la souris. C'est-à-dire on inonde d'une surface éventuellement comme on faisait avec les mains ou on découpait dans un carton pour faire un masque. Aujourd'hui, il existe en numérique effectivement des masques électroniques qui lui permettent effectivement de faire mieux sortir telle lumière et tel objet ou telle couleur, enfin entre guillemets, voilà, tel gris. Donc on est à peu près dans la même chose et le fait d'avoir fait beaucoup de labos aussi, ça m'aide beaucoup.
Alors, vous disiez avoir exercé dans l'architecture principalement, forcément des lignes des horizontales, verticales, obliques. Et vous êtes passé à l'humanité ces derniers temps avec la photographie. C'était une nécessité pour vous de proposer votre vision sur l'homme ?
J'ai toujours pensé que l'espace existait que lorsqu'il est habité. Donc déjà, ça, c'est pour moi un principe qui fait que l'architecture n'existe que lorsqu'il y a mouvement, occupation, habité, qui permet effectivement de sentir l'espace. Donc pour moi, c'est assez naturel. Puis deuxième chose, c'est que le fait d'avoir travaillé aussi beaucoup dans le secteur public fait que la rencontre avec l'humain, et en particulier dans le champ social, fait que je me suis beaucoup plus intéressé sur la réalité humaine, entre guillemets, les réalités humaines, et ce qui me permet aujourd'hui dans la photographie de m'intéresser... effectivement à ce champ, quoi. Je suis pas très fort en paysage, par exemple, parce que le paysage, je préfère l'avoir au niveau du pied, au niveau de la marche, quand je monte, voilà. C'est ce qui me plaît beaucoup dans le Diois, la moyenne montagne, c'est extraordinaire pour ça. Mais je serais incapable de prendre une photo correctement, quoi. En revanche, me retrouver dans une fête ou me retrouver dans un événement et de photographier effectivement les personnes qui sont là dans cette mouvance, dans ce bouillonnement, je dirais, d'activité, ça me plaît bien, quoi. Au moment de l'inauguration de l'exposition qui est au Pestel, il y a une femme, Virginie, qui est clown et qui est intervenue pendant un petit moment. Et là, je prends l'appareil et puis je m'approche, je tourne autour d'elle et je la laisse vivre, bien sûr. C'est son histoire qui se développe et moi, là, autour de l'appareil, me sert effectivement à chercher le bon angle pour exprimer ce qu'elle dit. Et donc de trouver le bon moment pour pouvoir appuyer sur le déclencheur. Voilà, c'est ça m'intéresse.
Tous les deux, donc vous avez, vous articulez vos passions respectives et vous en êtes arrivé à créer des choses ensemble.
Oui, donc on a commencé avec d'abord les petites vidéos sur le revenu de base, le revenu universel. Et donc, appel à ceux qui seraient d'accord de venir causer avec nous sur le revenu universel, parce qu'on, enfin, c'est un sujet qui nous tient à cœur, en tout cas. Je viens encore d'en parler avec un ami tout à l'heure. Et voilà, donc, on a commencé par une petite série de vidéos qui se retrouvent donc dans cette chaîne Café du Commerce Solidaire. Et puis, avec Philippe, on a eu envie aussi de parler de petites associations ou d'initiatives citoyennes dans le DIWA. Et voilà, aussi des initiatives qui ont du sens, qui ajoutent c'est de la haute valeur ajoutée, on dirait. Et donc, on a commencé avec le Bar à Boc, qui est une épicerie café citoyen. Voilà, et ça va continuer avec d'autres initiatives, dont j'espère en tout cas les jardins nourriciers de Marignac, par exemple. Buenaventura, enfin d'autres, voilà.
D'autres projets.
Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière les créativités, les énergies positives du territoire. Ça va aussi dans le sens de toutes les, je dirais, toutes les révoltes actuelles qui sont, enfin, qui s'expriment contre un pouvoir trop centralisateur. Et aussi contre une injustice, des injustices fiscales, sociales, etc. Donc voilà, nous on a envie de mettre en lumière plutôt ces activités, ces énergies là.
Deux, vous êtes arrivé sur le DIWA après votre carrière professionnelle. Qu'est-ce qui vous a retenu dans le DIWA?
Alors là, pour nous, c'est, je veux dire, le hasard, si on croit au hasard, et j'y crois en partie, peut-être pas totalement, mais quand même. En fait, nous, on a vécu notre vie, je dirais, familiale et professionnelle en Ardennes belge. Et quand on est arrivé en Ardennes, parce que moi, je suis flamande d'origine, et quand on est arrivé en Ardennes, on s'est dit, bah voilà, on va rester ici un certain nombre d'années, mais plus tard, on ira vivre en montagne. Et bon, c'est vrai qu'en Belgique, il n'y a pas de montagne. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis c'est pas malheureux, puisque finalement, on est arrivé dans le Diois. Et moi, enfin, voilà, j'aime vraiment bien, au point que je me suis dit, mais voilà, j'aurais dû venir ici beaucoup plus tôt et élever mes enfants ici, comme ça mes enfants, mes petits-enfants ne seraient pas si loin. Et, mais voilà, on est arrivé ici et on est arrivé d'abord dans le Haut-Diois. Et puis comme moi, je suis quand même très très souvent à Die, ben, on a décidé de se rapprocher de Die. Et heureusement, ça s'est bien mis et on se retrouve à Marignac et c'est parfait.
Comme vous le disiez dans votre intervention, vous parliez donc d'une chaîne que vous aviez sur YouTube qui s'intitule donc le Café du Commerce Solidaire. C'est en hommage à un établissement qui a réellement existé, le Café du Commerce ?
Non, en fait l'idée c'était, en fait c'est des discussions de café de commerce. On dit souvent les discussions qui riment à rien, qui n'ont pas d'arguments, qui n'ont pas de fond, ben, c'est des discussions de café de commerce. Et en fait nous, on se dit, oui, mais bon, au comptoir d'un café, il se dit des choses importantes parce que les gens, ben voilà, quand on boit un verre ensemble, quand on boit une tasse de café, ben, on peut s'échanger de cœur à cœur. Et c'est un peu ça. Et dans Café du Commerce Solidaire, parce que solidaire, ben nous, c'est l'aspect quand même qui nous tient à cœur. Et donc, on avait envie de rester dans ce mode de communication-là, c'est-à-dire de cœur à cœur, voilà. Et sans nécessairement devoir prouver, devoir légitimer de quel endroit on parle, qu'est-ce qu'on a comme diplôme pour dire ça, qu'est-ce qu'on a comme expérience pour dire ça. Non, ben on vient, on parle de cœur à cœur. Voilà, je pense que c'est un peu ça l'idée.
Une question pour vous deux. Est-ce que vous avez le sentiment, avec la technologie d'aujourd'hui, que la parole se partage plus facilement et est-ce que ça permet aussi de relier les personnes entre elles plus rapidement aussi ?
Ouais, il me semble qu'on a des moyens aujourd'hui, que ça soit aussi bien du son qu'au niveau de l'image, tout est numérique. Donc, et en plus, on a un système simple de réseau qui est Internet, qui permet effectivement, à travers alors soit les blogs, soit à travers YouTube, effectivement, c'est des outils. Et je pense que c'est bien de s'en servir. C'est-à-dire, au lieu de, on est là plutôt à avoir une espèce de conscience de ces outils, donc de pouvoir les utiliser consciemment, entre guillemets, et que ça soit bien des supports de diffusion. Et je crois que aujourd'hui, ce qu'on vit, nous, ce que Anna rappelle sur le Diois, le plaisir que l'on a dans le Diois, parce qu'effectivement, il y a tellement de projets alternatifs, il y a des situations très intéressantes, enfin, il y a une matière à la fois intellectuelle et sociale qui est très intéressante. On a envie aussi de le diffuser, parce que je pense que dans d'autres endroits, il n'y a pas ça. Et pour nous, utiliser ce réseau, c'est utiliser aussi, j'irais, donner de l'information à ce qui peut se passer. Moi, j'ai des amis qui sont en région parisienne, qui découvrent ce qui se passe dans le Diois à travers aussi bien le blog que j'envoie moi à ces amis-là dans mon réseau, parce que finalement on échange nos informations, ou des photos que j'envoie aussi à d'autres gens. Donc voilà, ça, je trouve ça passionnant, et c'est vrai que les outils aujourd'hui, et le numérique en particulier, est un excellent moyen de diffusion, quoi.
Anna Blum, est-ce que c'est un hommage à ce nom que vous avez pris, ce pseudonyme ?
Alors en fait c'est un double hommage parce que donc il y a un roman de Paul Auster qui s'appelle Le Voyage d'Anna Blum, mais Blum s'écrit avec un E au bout. Et bon, j'adore Paul Auster, j'ai lu je pense à peu près tous ses bouquins, tous ne sont pas égaux on va dire, il y en a que je préfère à d'autres. Mais, et alors il y avait aussi L'honneur perdu de Katharina Blum, qui est d'un écrivain Heinrich Böll, qui a écrit Le sourire de l'ange, par exemple. J'ai lu évidemment L'honneur perdu de Katharina Blum, mais surtout Le sourire de l'ange, c'est un livre formidable sur la faim. La faim dans le monde, la faim FAIM. Et voilà, donc c'est un hommage à deux écrivains en particulier, qui sont l'un aux États-Unis, l'autre allemand, mais c'était un pacifiste allemand. Et voilà.
Et vous, Philippe, ce prénom Blum vous a interpellé aussi?
Ah oui, bien sûr, ça fait partie aussi de la culture, littéraire, comme le rappelle Anna, quoi. Donc, effectivement, d'ailleurs, moi, je l'appelle Anna, sans problème. Et puis, même dans les messages, c'est parfois je t'appelle Anna Blum. En tout cas, quand je côtoie des gens, je dis, ben voilà, c'est le blog d'Anna Blum, et puis je présente Anna Blum. C'est pas son, voilà, c'est son pseudo, mais qui me plaît bien. Je crois que ça fait partie aussi de cette culture, quoi, voilà.
Et les prochaines, vos perspectives d'un travail en commun, vous en envisagez?
Bah oui, comme le rappelait d'ailleurs Anna, c'est qu'on entame une série de rencontres avec ceux qui ont créé et participent aux Les Jardins Nourriciers à Marignac. Donc on va commencer, je pense, les premiers, je crois, vendredi, je crois.
Hein. Le 15.
Donc voilà, on a ce projet-là qui commence à bien stabiliser. Et puis, on en a d'autres, parce qu'il y a Buenas Andas avant tout, là, qui nous intéresse beaucoup, parce qu'il y a effectivement une expérience intéressante qui se crée. Et puis derrière, il y a plein d'autres choses qu'on a, on verra, je crois, qu'au fur et à mesure. On n'est pas pressé. En même temps, on a des désirs profonds de rencontres. Et le fait de rencontrer déjà des gens, ça nous permet d'élargir notre champ de à la fois des rencontres, mais le champ de possibles aussi. Donc voilà, tout est ouvert.
Est-ce que dans le Diwa, il y a suffisamment de richesses pour vous en inspirer?
Ah ben ça, c'est sûr. Hein.
Oui.
Non, d'ailleurs, souvent, mes enfants me disent « Oui, maman, mais tu es dans le Diwa. » Parce que je leur dis « Oui, mais il faut, c'est chouette, il y a ci, il y a ça, il y a encore quand même pour vivre, etc. » Et donc, « Oui, maman, d'accord, mais tu es dans le Diwa. » C'est pas la même chose partout. Hein. Il y a une conscience, je pense, au niveau des jeunes, une conscientisation au niveau écologie, au niveau même politique, je dirais une vision du monde, vision philosophique même, je dirais, qui est quand même particulière, je dirais, au Diwa, et qui voilà, c'est malheureusement c'est pas encore partout comme ça, je dirais, surtout par rapport à au monde de consommation. Société de consommation. C'est clairement dans nos sociétés, peut-être plus encore, je dirais, quand on va vers le nord, plus on va vers le nord, plus cette société-là, elle est quand même, c'est quand même impactant, terriblement impactant, et très très difficile de trouver une moyenne mesure, de trouver une bonne mesure, de trouver un équilibre entre, la croissance à tout prix, on sait que c'est pas possible. Et on sait que c'est en tout cas pas transposable partout. La décroissance quelque part, mais de quoi? En contrepartie, si on décroît au niveau de la consommation, par exemple, il faut certainement faire croître la solidarité, faire croître l'entraide, faire croître l'art en général, la place des artistes. Je pense que tout ça, on le sent bien, c'est en germe ici dans le Diwa. Et c'est ça qui est fantastique, je trouve. Et c'est une très, très grande richesse.
Je crois qu'il y a trois domaines forts qui s'unissent dans le Diwa, qui est très, très fort. Il y a le champ social, le champ culturel et le champ environnemental, qui conduit effectivement à avoir une espèce de conscience collective, à la fois politique, mais aussi actif. Vraiment pragmatique même, qu'il faut qu'effectivement il y a une énergie qui est incroyable. Enfin, moi, je, Quand je suis arrivé dans le Divois d'une manière permanente, j'ai rencontré les agités du local. Et j'étais épaté de voir ces jeunes qui sont des producteurs ou des artisans ou des créateurs et qui s'unissent, qui veulent s'en sortir, qui trouvent les moyens de s'en sortir et qui font. Et ça, pour moi, je trouve ça vraiment très très bien. Enfin, en tout cas, je veux dire, pour moi, il n'y a pas photo. Et c'est vrai que de cette rencontre-là, je me suis aperçu que derrière ça, il y avait aussi de la musique, il y avait aussi du sens collectif, il y avait aussi de l'attention par rapport au paysage. Et de là, bien sûr, le réseau aidant, j'ai rencontré effectivement d'autres producteurs, etc., qui font qu'aujourd'hui, et je vois le travail que l'on a fait, nous, sur le café épicerie à Mindelon, citoyen, on est dans le même esprit, dans le même état d'esprit. L'histoire est là, quoi.
Est-ce que la richesse du Divois, c'est aussi son aspect cosmopolite ?
Bah, je crois que c'est un lieu d'échange. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai bien découvert ici que Anna est belge, mais ce qui compte, c'est que ça soit Anna, quoi, avec sa culture et son histoire et son bagage. Et qu'effectivement, il y a ce côté un peu écliptique qui nous amène effectivement à de belles rencontres et donc forcément échanger parce que voilà, on a de ces échanges, on construit quelque chose ensemble. Quoi. C'est ça qui est intéressant.
Ouais. Pardon. Non, mais ce que je voulais peut-être rajouter aussi, c'est que moi, j'étais très surprise aussi que, en fait, les personnes qui n'ont jamais bougé d'un endroit, elles sont les mêmes partout, en fait. C'est ça qui est étrange, parce que en Ardennes, souvent, on se disait, par exemple, des jeunes qui étudiaient, qui voulaient devenir instituteurs ou institutrices et qui désiraient faire leurs études là où ils ont vécu toute leur vie, parce qu'il ne fallait pas aller dans un patelin à côté ou dans une ville un peu plus loin. Et donc, c'est un esprit quand même très, très fermé, je dirais. Et en fait, les personnes qui n'ont jamais été voir ailleurs, qui sont toujours restées au même endroit, je peux comprendre que en fait il y a un sentiment d'appropriation du paysage, d'appropriation du lieu, et on pense que ce lieu il est à nous et on veut pas le partager avec les autres. J'exagère probablement, et peut-être que très probablement aussi que tout le monde n'est pas comme ça, mais n'empêche que j'ai rencontré certaines personnes ici dans le Divois qui n'ont jamais voyagé, qui ont toujours vécu ici, et j'ai retrouvé exactement les mêmes réflexes que ceux qui n'ont jamais voyagé en Ardennes. Et donc je me dis il y a quand même quelque chose de bien de voir arriver des étrangers, de partager ou d'aller voir soi-même ailleurs comment le monde est fait, comment vivent les gens, quelles sont leurs valeurs. Ça amène, on respire mieux, on respire plus grand. Je pense que c'est vraiment ça, en fait.
Là, c'est une question que je vais poser, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que, à vos regards, vous voyez les choses poindre un certain danger du fait du désengagement de l'État par rapport à ses services publics, justement, sur le Divois ?
Oui, enfin, pour moi, c'est clair. Enfin, en tout cas, ayant suffisamment aussi travaillé dans le secteur public, je vois effectivement le désengagement de l'État en général de toutes les actions publiques qui peuvent exister sur un territoire comme le nôtre. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour tout le monde, quoi. Je cherche pas forcément à faire un État qui, qui soit... Je sais pas comment on appelle ça, mais qui donne la possibilité... Comment ?
Communiste.
Oui, communiste, non. Mais je pense fondamentalement que... Le pouvoir public, entre guillemets, mais plus généralement, peut-être les services publics en général, doivent avoir un impact, avoir une certaine proximité. Voilà, je cherchais le mot. C'est une proximité qui permette effectivement à chacun de pouvoir effectivement avoir une facilité d'accès pour, voilà, que ce soit l'hôpital, que ce soit la poste, que ce soit d'autres institutions, je dirais, publiques. Les trains, bien sûr, les déplacements, c'est des éléments importants. ça participe à la, quand même à la rencontre avec les autres. Anna parlait effectivement que voyager permet de grandir aussi. Je pense que l'espace public en général, c'est un lieu, déjà le lieu du débat, et c'est aussi un lieu où on doit pouvoir se mouvoir d'une manière facile, quoi. Que ça soit dans les déplacements, que ça soit aussi de pouvoir aller à l'hosto, etc., quoi.
Moi, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ça. Disons que dans la récente, je dirais, la révolte des Gilets jaunes, moi, j'ai une petite réserve dans le sens où je pense qu'être pauvre dans la ruralité, c'est pas pire que d'être pauvre en ville. Et donc, j'aurais peur, en fait, d'avoir une vision manichéenne, c'est-à-dire c'est bien de vivre en ville ou c'est mieux de vivre en ruralité, parce qu'en ville, les transports, c'est sûr qu'il y a des transports, mais moi je sais bien que, ayant vécu dans la ruralité profonde, je dirais en Belgique, par exemple, il y a des gens qui allaient travailler chez nous, ils mettaient une heure de porte à porte, mais quelqu'un qui habite à Bruxelles et qui devait faire 3 kilomètres, il mettait une heure aussi pour arriver. Et donc, je pense que, en tout cas, moi j'ai une vision plus marxiste peut-être de l'économie et des services publics, dans le sens où, enfin, une vision de classe, je dirais, parce que être pauvre, que ce soit en ville ou que ce soit dans la ruralité, c'est pas chouette, quoi. Et c'est pas mieux en ville, parce qu'en ville on respire pas, dès qu'il fait beau, il y a la pollution, ce qui n'est pas vrai ici. Alors bon, ben voilà, chacun a des avantages et des inconvénients, mais je pense qu'on doit plutôt voir ça d'une façon globale et de se dire, ben oui, il faut trouver une plus juste répartition des richesses, ça c'est clair, et d'avoir des services publics qui soient équivalents ou en tout cas voilà, qu'on laisse personne au bord de la route, que ce soit en ville ou que ce soit dans la ruralité, quoi.
Anna Blum, ce sont des textes qui parlent de quoi ?
Donc, les portraits que j'ai faits, donc sur mon blog, il y a plusieurs chapitres, on va dire. Donc, il y a le chapitre Portrait Passion. Et les portraits passion, ben c'est des, j'ai fait des portraits écrits et quelquefois avec les photos de Philippe. Avant, je faisais les photos moi-même et donc c'est des portraits de personnes qui sont passionnées. Pourquoi passionnées? Parce que je pense que chacun a peut-être en tête un vieux prof, un vieil instit qu'ils ont toujours gardé en mémoire parce que la dame ou le monsieur était passionné d'un sujet. Et quand on est passionné d'un sujet, il n'y a rien à faire, on peut le transmettre de façon évidente. Pour moi, les passions, ben voilà, ben évidemment, la passion du timbre-poste, bon, bof, voilà, mais c'est plutôt des passions qui peuvent susciter la curiosité chez les autres. Voilà, donc il y a ça, et puis il y a le chapitre, je dirais, les petites histoires d'amour, saveurs d'amour. L'amour est quand même, je dirais, quelque chose qui meut tout le monde, qui met en mouvement, qui crée des émotions. Et voilà, j'adore explorer ce thème-là sous toutes ses facettes d'ailleurs, pas que l'amour, c'est beau, c'est joli, c'est sympa et tout. Non, l'amour, ça renvoie aussi à nous-mêmes, à nos propres imperfections, à nos besoins insatiables, à plein de choses. Et ça m'amuse vraiment d'explorer ça un peu sous toutes ses formes. Voilà. Et puis, quelquefois aussi, je partage des écrivains, enfin, de la littérature, quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, je fais très rarement, mais je le fais quand même parce que, quelquefois, je suis tellement émue par quelque chose que j'ai lu que j'ai envie de le partager. Je pense notamment à quelque chose que j'ai lu il n'y a pas longtemps, Dans la forêt, de Jean Hegland, qui est une espèce de vision apocalyptique de l'avenir. Pas que apocalyptique, elle est aussi plein d'espoir. Et c'est un livre franchement initiatique, un livre formidable qu'on trouve à la bibliothèque. Donc quand la bibliothèque sera ouverte, on peut l'emprunter.
Entre vous deux, qui inspire l'autre vous le faites, vous vous inspirez mutuellement sur ce que vous produisez?
Il y a la partie blog, proprement dit, écriture, c'est quand même Anne qui travaille. Après, sur des sujets, par exemple, Main de Long est arrivé un peu ensemble.
Toi surtout,
oui,
puisque
moi,
parce que je fréquentais
Main de Long, et puis je fais des photos depuis le mois de septembre l'année dernière, donc j'ai un suivi sur une durée, mais sur les autres sujets, on échange, donc
oui,
c'est chacun à ses propres réseaux, donc amène son tiroir, quoi, entre guillemets, et puis on en discute, et puis on le fait ensemble.
Ouais. On peut rappeler aux auditeurs le site internet, donc oui. Son adresse où il suffit de taper Anna Bloom.
Blog de Anna Bloom en un mot. Blog de Anna Bloom.
Je vous souhaite une bonne soirée à vous deux.
Merci,
merci.
Beaucoup.
Merci. Merci. Beaucoup.